Et ce matin, j'ai la charge d'exposer la parole de Dieu. Mais avant ça, juste vous dire, ils sont que deux ce matin, mais j'ai reçu un message des anciens de cette église, des responsables, pour vous prévenir qu'à partir de septembre, il y aura un videur à la rentrée de cette église. Il y aura quelqu'un qui sera à l'entrée. Il y aura des conditions pour participer au culte dominical, pour venir adorer Dieu. PS, il s'agit des mêmes consignes que pour accéder au paradis. Petite pièce jointe avec les conditions. Pour rentrer, vous devez être une personne intègre, qui fait ce qu'elle dit, mesurée dans ses pensées, dans ses paroles, qui ne dit jamais de mal sur ses proches, qui met en avant sans cesse ses frères et sœurs dans l'Église, et qui est généreux et est même prêt à prêter de l'argent sans intérêt. Voilà les conditions pour rentrer à partir de septembre. Je ne sais pas comment on s'y prendra. Est-ce qu'on fera une police de l'éthique, peut-être? Est-ce que je fais lever la main à ceux qui répondent aux conditions maintenant, comme ça on leur fait gagner du temps pour la rentrée? Attention à ceux qui lèvent la main. Hein. C'est compliqué, hein? Il ne resterait pas grand monde hein, dans la salle, moi le premier. Et la question qui va nous occuper ce matin avec le texte qu'on va lire, c'est qui? Qui? Du coup, qui est digne de rentrer dans la présence de Dieu? Qui est digne de l'adorer le dimanche matin et tous les jours de sa vie? Qui? Qui est digne de rentrer dans la présence de Dieu? Et vous allez voir le texte prêché ce matin, le texte dans lequel on va se plonger de l'Écriture, y répond. Il s'agit d'un texte qui est issu comme le psaume 23 qu'on vient de lire pendant ce début de culte. Il est issu d'un recueil qui s'appelle les psaumes. 150 psaumes qui sont au cœur de la Bible, que nous croyons dans cette Église d'ailleurs, parole de Dieu, autorité, dans l'Ancien Testament. Et les psaumes, c'est un livre particulier. Même la traduction du mot psaume, ça veut dire pincer les cordes. En fait, vous avez là un recueil de chants, un recueil de poèmes, des extraits de sagesse. Et Alfred Kuhn, en citant le réformateur Jean Calvin, a dit la chose suivante sur le livre des psaumes. Après avoir été le recueil de cantiques et de prières de la communauté juive, le livre des psaumes est devenu celui de l'Église universelle. Depuis 3000 ans, les croyants trouvent dans les paroles de David, d'Asaph, des fils de Corée, la formulation de toutes les douleurs, tristesses, craintes, doutes, espérances, sollicitudes, perplexités, voire jusqu'aux émotions confuses dont les esprits des hommes ont accoutumé d'être agités. Et je vous propose de lire le psaume 15. Je vous laisse chercher dans vos Bibles le psaume 15 qui suit logiquement le psaume 14. Mais ce n'est pas anodin si je vous dis cela, puisqu'il semblerait que les deux, 14, 15 et peut-être même le 16, soient connectés les uns aux autres. Alors, j'espère que cette semaine, ça vous donnera peut-être une idée pour vous rafraîchir sur la terrasse de relire ces trois psaumes. Mais nous lisons le 15 qui fait suite logique dans sa description et dans le contenu. Le psaume 15 dans la version Second 21, pour ceux qui voudraient savoir. Et puis pour ceux qui n'ont pas de Bible sur leur smartphone ou leur Bible, même si je vous invite à l'ouvrir si vous l'avez, le voici à l'écran. Psaume 15, page 372 pour ceux qui suivent avec ces Bibles. Psaume de David. Éternel, qui séjournera dans la tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son semblable et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas. Il fait un serment à son préjudice. S'il fait un serment à son préjudice, il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Parole de Dieu. Imaginez-vous, 1000 ans avant Jésus-Christ à peu près, le roi David, l'auteur de ce psaume, règne, il est roi. Il reprend Jérusalem, il remet en place le culte à Dieu, il fait transporter le coffre sacré de l'Éternel dans la capitale, un coffre qui contenait les tablettes de l'Alliance, les tables hein, sur lesquelles Moïse avait écrit ce que Dieu lui dictait sur le mont Sinaï, Ce coffre-là reprend sa place. Il représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple, rien que ça. Et alors que David célèbre tout ça, dans la présence de Dieu, il semblerait qu'il ait écrit le psaume qu'on vient de lire. À ce moment-là, au moment où la présence de Dieu revient au cœur de la ville, au cœur de son peuple. Et il semblerait qu'il ait écrit ce psaume. Et surtout, en fait, dans ce psaume, il a rédigé une question, verset 1, puisque le reste, Dieu répond. Qui ? Voilà la question du verset 1. Qui ? C'est une question qui colle bien avec la tradition cultuelle du peuple d'Israël. Souvent, quand on voulait, en tant qu'Israélite, offrir un culte à Dieu, on allait voir le prêtre et on lui demandait les conditions d'accès. Qu'est-ce que je dois faire pour aller rendre un culte ? Et on posait une question au responsable du culte. Qui ? Verset 1. Qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? Qui peut rendre un culte à Dieu ? Et on pourrait dire, je dis ça, hein, je dis le mot culte, parce que vous voyez les termes de tente, de montagne sainte, dans l'Ancien Testament, renvoient à chaque fois au tabernacle, au temple, à la maison de Dieu, littéralement. Donc qui peut rentrer dans la maison de Dieu, en fait ? Et au-delà de ça, j'ai parlé de paradis tout à l'heure, puisque, je ne sais pas si vous regardez bien le verset 1, vous voyez, il y a des mots comme séjourner, demeurer. Ça ne renvoie pas juste à une petite visite cordiale dans la maison de Dieu. Il semble qu'il y a quelque chose là de plus long, de plus pérenne. Qui ? Pour entrer dans la maison de Dieu. Oui, mais qui pourrait être dans sa présence pour toujours ? Voilà la question de ce matin. Qui ? Je me dis qu'il est possible qu'à ce moment-là précis de l'histoire du peuple d'Israël, David voulait peut-être rappeler aux fidèles ce que signifiait rendre un culte à Dieu. Demeurer dans sa présence. Je ne sais pas vous, hein, mais peut-être pour certains d'entre vous, aller au culte le dimanche, aller dans la maison de Dieu le dimanche, c'est un peu faire une fleur aux responsables de l'Église. On fait plaisir à son pasteur, on fait plaisir même à sa famille, qui sait. On fait plaisir aux autres pour qu'on nous voie. Et puis, on fait plaisir à Dieu. J'ai fait l'effort. Si je peux, j'y vais. Et puis, il y en a d'autres dans l'Église, c'est carrément ancré dans leur identité. On se demande s'ils adorent Dieu quand ils viennent au culte ou s'ils adorent le principe de culte et d'Église. J'adore aller à l'Église. Je suis fidèle au culte. Ça me fait du bien d'aller au culte. Voyez-les. Deux possibilités qu'il peut y avoir, deux motivations. Et dans tout ça, qui est digne de venir dans cette salle ? Et plus largement, d'être dans la présence de Dieu pour toujours. Qui ? Un réformateur dit de ce psaume la chose suivante. Ce psaume nous enseigne que c'est en vain que les hypocrites viennent prendre place dans le temple de Dieu et qu'ils ont le nom de Dieu à la bouche, car Dieu ne reconnaît pour sien que ceux qui, dans toute leur vie, s'appliquent à la droiture et à la justice. Alors, je vous propose trois étapes pour brosser le portrait de celui que Dieu accueille dans sa présence pour toujours. J'ai choisi trois mots qui résument, à mon sens, ce psaume. Si vous en avez d'autres, je serais ravi de les entendre. C'est assez limite, mais c'est au moins pour résumer le psaume. Celui qui peut rentrer dans sa présence, il semblerait que ce soit à la lecture de ce psaume le juste, le vrai, le généreux. Autant vous dire qu'il ne s'agit pas de la description qu'on fait de moi chaque jour. Et je vois très franchement dans ce psaume, pas mon portrait, mais le portrait de celui vers qui toute l'écriture converge. Celui en qui j'ai placé ma foi, celui qui m'inspire, celui qui me transforme jour après jour. Je crois qu'on a dans ce psaume le portrait du Christ Jésus. Le juste, le vrai, le généreux. Celui grâce à qui nous pouvons, nous autres aujourd'hui, rentrer dans sa présence, rentrer dans la présence de Dieu, et cela pour toujours. Alors, on voudra admirer le texte ce matin et j'aimerais qu'on puisse admirer aussi à quel point on peut voir en filigrane le Christ, comme on le voit en filigrane de toute l'Écriture, à vrai dire. Et en même temps, j'espère qu'on pourra ensemble grandir dans ces trois domaines-là, sortir davantage conscient de ce que veut dire être juste, vrai et généreux, et s'y encourager, parce qu'on a besoin de ça. L'Église est là pour ça. Pas pour pointer du doigt celui qui en a que 1/3 de ces mots-là, mais plutôt pour le conduire et l'emmener à ressembler davantage au Christ. Ça, c'est l'Église. Et je dis ça d'autant plus que, on le verra dans ce psaume, et vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a un appel communautaire. Il est question du prochain dans ce texte. Il est question du semblable, de celui qui craint Dieu. Il me semble, comme beaucoup de psaumes, qu'il s'agit d'un psaume à vivre ensemble, pour la communauté, pour le peuple de Dieu, comme on demandait au peuple juif de le faire. Alors, l'engagement est ici collectif, comme il est bien souvent. Premièrement, si vous m'avez suivi, et je me base sur le verset 2 pour dire ça, celui qui peut rentrer, qui peut venir louer Dieu ce matin, c'est le juste, rien que ça. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit ce qu'il pense vraiment, verset 2. Le juste, c'est un terme qu'on attribue dans l'Ancien Testament d'abord à Dieu, en fait. C'est un attribut de Dieu. Dieu est juste. C'est pas rien, hein ? Ce qu'il fait est juste. Ce qu'il dit est tout le temps juste. Ce qu'il pense est tout le temps juste. Dieu est juste. Et on constate, quand on parcourt l'Ancien Testament aussi, que le mot justice est ensuite corrélé aussi à la capacité de l'homme de répondre à ce que Dieu demande, à ses commandements. Celui qui répond aux exigences de Dieu, aux exigences morales notamment, est juste. Mais rapidement, on voit dans la Bible qu'il ne s'agit pas simplement de valider des rites, de cocher des cases, de connaître la loi par cœur, la loi morale de Dieu par cœur, même s'il est bon de la connaître et de la méditer, hein, entendez-moi. Mais on voit Paul qui précise dans le Nouveau Testament à l'Église de Rome que ce n'est pas suffisant. Il dit la chose suivante, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Ça colle avec ce que nous dit David ici. Le juste, ce n'est pas juste celui qui connaît ce qui est juste, mais c'est celui qui fait et qui dit aussi ce qui est juste. Et voyez particulièrement dans ce psaume comment David associe la justice à ce qui sort de nos bouches, celui qui dit ce qui est juste. Et là encore, je n'ai pas l'impression d'être toujours tout à fait juste dans mes paroles et mes propos. Aussi fidèle que je le voudrais à la loi morale de Dieu. Quand je regarde ma vie ou celle des frères et sœurs qui m'entourent, je pourrais conclure comme Paul, de nouveau dans la lettre aux Romains, j'y ferai quelques références. Il n'y a pas de juste en fait. Pas même un seul, nous dit Paul. Et notez qu'après cette parole, dans la lettre aux Romains, Paul va citer directement le psaume 14, qui est juste avant. Et le psaume 14, en fait, c'est la description de l'homme impie, de l'homme injuste, tout l'inverse de ce qu'on voit là, au chapitre 15. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pour autant, je ne crois pas que dans ce psaume, l'invitation de David soit à nous faire, soit à nous dire bah, baissez les bras parce que c'est impossible ce que je vous dis là. Mais je crois que c'est une invitation à reconnaître d'abord qu'il n'y a qu'un seul juste, Dieu, parfaitement juste. Être capable soi-même de reconnaître que notre morale est biaisée, qu'on n'arrive pas à répondre aux exigences de Dieu. Et que nous avons terriblement besoin de lui. On a terriblement besoin de sa justice. Paul en parle si bien dans la lettre aux Romains, je pourrais la citer tout du long parce qu'il y a tellement de connexions. Mais voilà une autre lecture pour le mois d'août peut-être, la lettre aux Romains. Et Paul évoque dans cette lettre que, en fait, nous pouvons nous crier haut et fort que nous sommes justes seulement parce que Christ l'est. Et quand nous embrassons la foi en Jésus-Christ, c'est alors que nous devenons nous aussi justes comme il l'est juste. Quand Jésus meurt à la croix, c'est le Fils de Dieu, le juste par excellence, qui meurt, et il se passe quelque chose d'incroyable à la croix, ce qu'on a célébré avec la Sainte Cène. Le Christ prend sur lui nos injustices, notre incapacité à répondre aux exigences morales de Dieu, il prend sur lui tout ça, voilà ce qui se passe à la croix, et il se passe autre chose d'extraordinaire, c'est qu'il nous donne sa justice. Et alors, quand on croit en Jésus, on est vu comme le Christ devant Dieu, tout à fait juste, parce qu'il a pris sur lui nos injustices pour nous donner sa justice. Et alors, on peut dire, oui, je suis juste. Et c'est là que commence aussi la marche et la vie chrétienne. On peut clamer haut et fort que nous sommes justes, mais on l'a vu, la Bible nous invite aussi à pratiquer la justice. Et même, parfois, il est écrit « marcher dans la justice ». J'aime un prophète de l'Ancien Testament, Ézéchiel, qui, sur tout un chapitre, le chapitre 18, parle de l'homme qui est juste. Le juste suit mes prescriptions. C'est Dieu qui parle dans Ézéchiel, et respecte mes règles en agissant conformément à la vérité. Celui-là est juste, et il vivra, déclare le Seigneur l'Éternel. Déclaré juste, nous sommes appelés à marcher dans la justice. L'invitation ce matin, Je clôture là ce premier point, c'est en fait une invitation à être consistant. Si nous croyons en Christ et son œuvre à la croix, alors marchons en conséquence de ce qu'il a fait pour nous. Choisissons l'intégrité, la proximité avec Dieu en suivant sa voie, sa volonté, sa morale qui nous est révélée dans toute l'Écriture. Vous avez là un fameux manuel d'éthique chrétienne. Tout y est. L'invitation ce matin, et elle paraît paradoxale, c'est aussi à lâcher prise avec tout ce que je viens de dire. Vous pourrez rentrer dans cette salle déclarée juste parce que Christ est juste. Et c'est par lui que nous pouvons y arriver, rien d'autre que par lui. Vous avez déjà fait le constat que par vos propres efforts, on se fatigue. C'est fatigant. C'est par son esprit, l'esprit du Christ que nous recevons à la conversion, que nous pourrons marcher pleinement dans sa justice. Si nous ne l'éteignons pas, si nous ne le calfeutrons pas de tout un tas de choses, de préoccupations qui nous éloignent de sa présence. Laissez-le faire. C'est tellement bon et libérateur. Deuxièmement, si vous avez suivi, celui qui peut rentrer dans la présence de Dieu, c'est le vrai. Merci. Sur les versets 3 et 4 particulièrement, le vrai, le véritable est digne de rentrer dans la présence de Dieu. Les versets 3 et 4 invitent à une parole vraie. Il est question de ce qui sort de nos bouches, à dire vrai. Une parole même qui est censée honorer notre prochain, le respecter, une parole qui élève. Et pour y arriver, je crois qu'il y a des choses à cultiver pour que ça marche dans l'Église, et puis d'autres à proscrire, à rejeter. Imaginez un jardinier qui arrive dans son jardin et il va dans le coin où il y a tout un tas d'herbes folles, de mauvaises herbes, de lierres délirantes, d'orties, et qui se dit ben voilà le bel endroit pour semer et pour planter des graines. Alors, il se met à planter des graines là-dedans, il met des bulbes, toutes sortes de semences de fleurs exotiques, magnifiques. Voilà, comme ça. Que pensez-vous qu'il va se passer? On n'a pas à s'étonner qu'il y ait peut-être quelque chose qui va sortir, et encore, parce que le soleil ne les atteint pas, et ça sera vite étouffé par ce qu'il y a autour. Ce bon jardinier, il aurait fallu qu'il se retrousse les manches et qu'il fasse son métier, qu'il l'enlève tout ça, peut-être au risque des raflures, des gratinures, qui prennent la bêche, qui prennent la pioche, qui prennent... et qui rajoutent ensuite du terreau, qui préparent la terre avant de planter ces vraies belles semences. Vivre vrai, dire vraiment les choses, c'est, je le crois, d'abord savoir rejeter ce qui étouffe, ce qui fait mal à l'autre, notamment par nos bouches. Rappelez-vous combien ce psaume est communautaire, à vivre ensemble. Il pointe ce que l'on doit vivre en tant que communauté de Dieu. Rejeter ce qui fait mal à l'autre dans l'assemblée, et ici dans le domaine des paroles notamment, et les actes qui l'accompagnent. Le verset 3, si vous regardez, évoque donc ce qui sort de nos bouches. Il est parlé de calomnie ici. On aurait aussi pu traduire scandale, celui qui raconte des histoires. Je crois que l'Église n'est pas épargnée par la calomnie. Combien de fois j'ai été soit victime, soit participant à un cynisme ambiant dans nos assemblées. Vous savez, cette facilité, le cynisme qu'on a à critiquer les choses, à dire ce qu'on aurait dû, ce qu'ils auraient dû surtout faire. Oscar Wilde disait du cynisme, le cynique, c'est celui qui connaît le prix des choses. C'est bien calculé le prix des choses, mais il n'en connaît pas la valeur. Combien de fois dans l'Église, nous pointons en disant « on aurait pu faire ça, ça c'est ça, et ça c'est ceci, ça c'est cela », et on ne regarde pas à l'autre, celui qui a travaillé derrière, celui qui a préparé, celui qui a mis du cœur là-dedans. Et on oublie la personne. Le cynisme par nos bouches, le manque de confidentialité parfois dans l'Église, sous vernis spirituel, je vais te partager un sujet de prière qu'on m'a partagé. Et là on déballe, on calomnie, parfois. La critique, le mensonge feutré. Tant de choses qui sortent de nos langues et qui n'honorent pas notre semblable, qui jettent le déshonneur sur notre prochain. Et puis verset 4, l'auteur parle aussi des actes qui sont associés à ces paroles fausses. Verset 4, il regarde avec répulsion l'homme au comportement méchant, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il semblerait que David là donne l'exemple de quelqu'un qui ne tient pas ses engagements, qui dit « je ferai ça » et ne le tient pas. Un commentateur dit la chose suivante, « rien n'est plus commun que de voir des gens se servir du plus mince prétexte pour rompre leurs engagements. » David condamne cette légèreté, je cite toujours, et exige que les enfants de Dieu se montrent tout autrement fidèles à leurs promesses. Combien de fois on a pu être blessé par le désengagement ? Notre bouche dit des choses et nos actes ne suivent pas ou ne suivent plus. Coupons court, évacuons ces mauvaises herbes de cette église, de l'église. Sinon, il ne faudra pas s'étonner si on voit peu de différence entre nos assemblées, nos foyers même, nos quotidiens et ceux des gens de ce monde. Alors de nouveau, on peut se sentir tellement loin de ces exigences, tellement accablé. Qui pour entrer dans la présence de Dieu ? Qui pour pouvoir dire « Ah oui, je suis quelqu'un de vrai, en parole et en acte ?» Et de nouveau, je suis reconnaissant pour celui qui a proclamé sur cette terre « Je suis la vérité. » Ça, c'est le Christ dans les évangiles. Jésus est le seul vrai, fidèle, en parole et en acte. Regardez les évangiles, relisez le récit des évangiles, les fois où il s'adressait aux foules, en petit comité, la façon dont il a toujours proclamé la vérité. Comment il a accueilli dans la vérité, comment ses actes ont suivi ce qu'il disait, en compassion et en droiture aussi. Vrai. Il nous ouvre la voie. Et en plus de ça, il habite en nous par son esprit, qui nous conduit à plus de vérité, plus de choses vraies dans nos vies, plus de paroles dont découle plutôt du miel que de la mauvaise herbe ou autre chose. De nouveau, une invitation à laisser le Christ en nous, son esprit, c'est la présence de Christ en nous, nous transformer pour nous aussi marcher dans la vérité. Une invitation à faire du jardinage aussi, dans l'église, dans nos foyers, dans le recoin de nos vies, en vue de plus de paroles de vérité, là où il y avait mensonge et calomnie, plus de comportements véritables qui honorent l'autre, ne le méprisent pas. Et notamment se voit, je reprends l'exemple du verset 4, dans les engagements qu'on prend à l'oral, où on est conséquent dans les actes qui suivent. Je vous laisse réfléchir à ce que vous devez arracher peut-être. Enfin, on vient de voir que celui qui dit vrai, qui rentre dans la présence de Dieu, mais dernière partie, dernier verset, le verset 5, il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de don contre l'innocent. J'ai l'impression que, pour répondre à la question, vous rappelez du verset 1, qui pour rentrer dans la présence de Dieu, il soit question aussi d'une attitude généreuse. Celui qui donne avec générosité, qui ne profite pas du malheur des autres, vous voyez encore le rapport avec le prochain, et on parle au sein de la communauté de Dieu, hein. Qui ne profite pas du malheur pour s'enrichir. Quand on s'intéresse à l'économie du royaume, l'économie du royaume de Dieu nous dépasse dans la Bible. Tout part du fait de savoir recevoir, ce qui n'est pas forcément facile pour tout le monde, hein. Il y en a qui ont du mal à recevoir des choses, qui ont du mal à dire « d'accord, j'accepte qu'on me donne quelque chose ». On se méfie. Ou des fois, non, on est mal à l'aise. Non, je ne peux pas recevoir. Mais l'économie du royaume commence par la réception de quelque chose. Et puis, elle exige de savoir donner ce qu'on a reçu. On est appelé à le donner. Si vous étudiez toute l'écriture du début à la fin, l'économie du royaume, ça se résume à ça. Savoir recevoir et donner ce qu'on a reçu. Pas forcément toujours en phase avec la façon de percevoir la richesse dans notre monde. Et je me rappelle la première fois que j'ai lu un livre, c'est un livre de l'auteur Timothée Keller qui s'appelle « Les idoles du cœur ». La première fois que je l'ai lu, et je vous le recommande, hein, avant de le lire, je regardais le sommaire du livre. Il y en a qui font ça peut-être parfois. Peut-être des fois vous lisez le sommaire, vous ne lisez pas la suite du coup. Hein. Mais bon, moi je lisais le sommaire comme ça, voilà. Je voulais savoir ce qu'il y a à la fin, ce qu'on dit. Et puis je lisais le sommaire, et dans le sommaire de ce livre, qui parle de l'idolâtrie, hein, des petits dieux de nos vies, Ben, je voyais à aucun moment les écrans, les médias, le sexe, la drogue. Je me disais, pourquoi il n'y a pas ça? Je sais pas clair. Hein, monsieur Keller, vous auriez pu ajouter quelques chapitres quand même. Et puis à côté de ça, beaucoup de pages sur le succès, le pouvoir et l'argent. Heureusement, j'ai lu ce livre. Et dans ce livre, on voit la chose suivante. Et Keller, quand il parle de l'argent, il dit que là où certains penseurs, il y a des siècles, affirmaient que notre société remplacerait Dieu par le sexe et l'amour sentimental, Nietzsche, avant Timothée Keller, avait lui une autre théorie. Il disait que nous finirons par remplacer l'absence grandissante de Dieu dans la culture occidentale par l'argent. Nietzsche disait, nous finirons par remplacer l'absence grandissante de Dieu dans la culture occidentale par l'argent. Keller en fait une idole principale qui irrigue, je le crois, tout un tas d'autres idoles de nos vies, dont celle que je n'avais pas vue dans le sommaire. Ce n'est pas pour rien non plus, je crois, que dans la liste des critères pour les responsables du culte dans le Nouveau Testament, pour les anciens, les pasteurs, il est question de l'argent, de l'appât du gain. Ils ne cherchent pas le gain malhonnête. On observe déjà ça dans l'Ancien Testament pour les responsables du culte, ou dans les critères du responsable du culte, il était déjà question de son rapport à l'argent. Ils doivent, les responsables, montrer la voie dans l'Église, dans ce domaine-là, je crois, et inspirer ceux qui aspirent à rentrer dans la présence de Dieu. Et on le voit ici, pour rentrer dans la présence de Dieu, avec ce verset 5, il est question d'un état de générosité, savoir donner sans exiger outre mesure, parfois en n'exigeant pas plus qu'il le faut. Alors intéressant qu'il finisse avec ça. Celui qui rentre dans la présence de Dieu, c'est aussi celui qui est appelé à veiller sur sa gestion de l'argent, qui sait déminer toute cupidité dans sa vie, toute idolâtrie possible de l'argent, et en même temps qui sait cultiver l'économie du royaume, hein, celle du don, et celle aussi de savoir recevoir à des moments, et de faire connaître ses besoins aux autres. C'est comme ça qu'on vivra l'Église. Le généreux, voilà celui qui est attendu à l'Église, celui qui entre dans la présence de Dieu. Et de nouveau, quand je bute à être généreux comme je le voudrais, quand je m'accable parce que je suis franchement accroché parfois à mes biens matériels, je bénis Dieu pour l'exemple qu'il a donné. N'est-ce pas son Fils qu'il a donné, justement ? N'est-ce pas son Fils qui s'est donné lui-même généreusement jusqu'à toute sa vie, son intégrité physique et plus, pour nous racheter, nous, à un grand prix, afin qu'on reçoive la foi. Alors pourquoi il nous est tellement difficile à nous de suivre cet exemple de don généreux, de don de soi, et aussi parfois de savoir juste recevoir ? Que le Seigneur vous encourage à regarder à Christ à chaque fois où viendra des difficultés dans ce domaine-là. Ensemble, rappelez-vous ce qu'il a fait, qu'il est le chemin à suivre aussi pour ces questions-là de la générosité. Mendiants de la grâce que nous sommes. Recevons et sachons donner ce que nous avons reçu, sans calcul. Pour conclure, le juste, le vrai, le généreux, c'est la réponse, tout ça. Hein. Les versets 2 à 4 sont la réponse au verset 1. Et puis vient une conclusion au verset 5. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Et comme on l'a vu au verset 1, je crois qu'il est question pas juste de notre vie ici-bas. On ne sera pas ébranlé ici-bas. Mais je crois qu'il y a dans ce mot ébranlé la signification de notre état pour toujours, dans l'éternité. Le croyant vivra pour toujours, sans peine, sans maladie, sans douleur, inébranlable. Celui qui rentre dans la présence de Dieu entre dans une stabilité, ici-bas, malgré les apparences parfois. Mais c'est le cas, c'est son statut, et pour toujours. Et je vous invite aussi, dans ce sens, à lire le psaume 16, comme je disais, qui est connecté et qui reprend cette question de ne pas être ébranlé et qui l'affine. un rabbin a commenté le psaume qu'on vient de méditer, le psaume 15, de cette manière-là, il a dit, sur le verset 5, « Ce n'est pas en la mort seulement qu'il ne sera point ébranlé, mais encore après sa mort, son âme demeurera dans le lieu de gloire. » Quelle espérance! Repensez maintenant à David, ce roi rempli de reconnaissance. Il est là, avec ce coffre présent au bon endroit, dans la cité de Dieu. La présence de Dieu au cœur de son peuple, à Jérusalem. Et pensez maintenant à celui dont on a parlé franchement dans cette prédication, ce roi issu de la lignée de David, Jésus-Christ, qui par son œuvre nous a permis plus largement de rentrer dans sa présence, maintenant et pour toujours. Et grâce à qui nous pouvons proclamer sans complexe. En lui, par lui, grâce à son esprit en moi, je suis vu devant Dieu comme le juste, vrai, généreux. Maintenant, ce psaume et tout ce qui suit ne m'invite pas à la paresse. Il m'invite à, avec mes frères et sœurs, à poursuivre ce chemin de justice, de vérité, de générosité. C'est ensemble que l'appel est donné. Vous avez déjà constaté que seul chez vous, c'est franchement difficile. Le plan de Dieu, c'est le plan d'un peuple auprès duquel il veut habiter, au sein duquel il veut habiter, et par lequel il veut se répandre et être vu. Soyons reconnaissants pour le plan de Dieu, reconnaissants pour l'œuvre de Christ qui nous permet de marcher à sa suite, lui le vrai, lui le juste, lui le généreux. Je vous invite cette semaine à méditer ces psaumes, encore et toujours. Régalez-vous. La parole est là. Même quand on est en pause estivale, en fait, c'est aussi un moment propice pour méditer l'Écriture. Je vous invite à méditer et au-delà de ça, à vous demander ce que je vais changer dans ma vie, comment ce texte va m'emmener au changement, comment je vais le partager, comment je vais m'encourager avec les autres à vivre ce qu'il a été écrit, sur que le Seigneur est avec vous, même l'été, quand vous êtes en congé. C'était de nouveau un plaisir d'être avec vous et je vous invite à prendre quelques minutes, peut-être avant la conclusion, prendre une minute de réflexion, peut-être pour laisser la parole, peut-être relire le psaume pour certains. Prenez une, deux minutes pour répondre au texte, à ce que Dieu dit.